La parole des contes avec Anne Wang.
Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bon dimanche. Nous avons déjà vu trois versions du conte type 706, La femme aux mains coupées. Voici la quatrième d'Henri Pourrat, où là, le père, sans équivoque, vend sa fille au diable, en toute conscience. Aussi, quand elle l'appellera son père pour qu'il lui vienne en aide, il ne bougera pas. Il est un moment, avec un motif récurrent, quand le diable toque à la porte. Et le père dit à sa fille d'y aller voir, d'ouvrir, alors qu'elle a peur. Et elle y va. Et elle ne voit rien. Comme elle ne voit rien, elle ne voit pas le diable. Eh bien, le diable ne peut pas l'enlever. C'est pas mal, non ? Hein, vous imaginez, l'huissier toque à votre porte pour tout vous prendre, vous ne le voyez pas, et magiquement, il ne peut rien vous prendre. C'est pas mal, non ? Bon, ici, ce n'est ni le père qui coupe les mains, ni un soupirant aux ordres de la mère pour... qui était devenue veuve joyeuse et le soupirant voulait l'épouser, c'était le chantage, ni les hommes de main de sa belle-mère qui lui tendent un guet-apens, mais c'est le diable lui-même. Et non seulement il ne se contentera pas de lui couper les mains, mais les bras tout entiers, d'un revers de bras. Elle n'aura pas à croquer un fruit directement avec sa bouche, dans les trois versions qu'on a vues auparavant, mais c'est le chien du prince qui lui portera du pain. Bon, trêve de plaisanterie, place au texte. Voici donc la version d'Henri Pourrat dans le tome 2 du Trésor des Contes, conte intitulé « Le conte des bras d'argent ». Il y avait une fois un homme qui avait une fille de 16 ans, si bonne et si belle que rien plus. Mais cet homme ne rêvait que de mener large vie. Et comme il n'avait pas le gousset trop ferré, il aurait mieux aimé bourse pleine en sa poche que cette fille en sa maison. Un jour, comme il passait devant la grande auberge, en entendant le carillon des verres et tout le train des buveurs qui chantaient, il cria devant soi « Ah, si cela me fournissait d'écus pour pinter tout mon sou, je vendrais bien ma fille au diable !» Pas plus tôt dit, il voit venir le diable. « Eh, si tu veux me la vendre, je te la paye. Autant de 100 écus que tu me dis le désirer. » Ah bah sur ce pied-là, c'est un marché conclu. Le diable aussitôt compte l'argent, compte que comptera tant que tu en voudras, je peux t'en remettre. Puis il dit, cette nuit, sur la minuit, je viendrai chercher celle que j'achète. Je l'ai vendue, vous viendrez la chercher. Sur la minuit, quelqu'un cogne à la porte. Du fond du lit placard, l'homme appelle sa fille. « Entends-tu ? On cogne à la porte. Lève-toi et va vite ouvrir. » Sa fille donc se lève. Elle prend de l'eau bénite. Elle fait un signe de croix et, en grande obéissance, elle ouvre la porte sur la nuit. « Je ne vois rien ? Comment tu ne vois rien ? Non, mon père, je ne vois rien. » Et elle retourne se coucher et se rendort. Le lendemain, sous un grand arbre au fond des bois, le diable se présente à l'homme. « Eh bien, se hâta de dire l'homme, cette nuit, que s'est-il passé ? Vous n'avez pas emmené cette fille ? Tu devrais le savoir. » L'eau bénite me gêne. Que toute cette eau-là disparaisse de la maison, sinon je n'aurai pas de prise. Cette nuit, sur la minuit, je reviendrai chercher ce que tu m'as vendu. Avec le diable, il faut passer par les petits chemins. L'homme ne laissa pas tomber son commandement. Le soir, il n'y avait plus à la maison la moindre goutte d'eau bénite. Sur la minuit, quelqu'un cogne à la porte. Du fond du lit placard, l'homme appelle sa fille. « Lève-toi, lève-toi! Entends-tu comme on cogne ?» Elle se lève, cherche l'eau bénite. Voilà qu'elle n'en trouve pas. « Entends-tu comme on cogne? Qu'attends-tu donc pour ouvrir ?» La pauvre alors va à la cruche, prend de l'eau pure, fait son signe de croix et elle ouvre la porte. « Je ne vois rien. »«
Comment ça, tu ne vois rien ?»«
Non, mon père, je ne vois rien. » Le lendemain, en quelques lieues écartées, au fond des bois, le diable de nouveau se présente à cet homme.
« Je n'ai pu enlever ta fille parce qu'elle s'est encore signée et l'eau pure pour un coup a valu l'eau bénite. Ôte-moi cette nuit tout haut de la maison. Sur la minuit, je saurai bien la prendre. »
Sur la minuit, de fait, tout recommence. On cogne et recogne au dehors. L'homme, comme toujours, du lit, crie à sa fille «
Dépêche-toi, cours vite ouvrir, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. » « Quand j'y vais voir, il n'y a personne. Ah, c'est la troisième nuit que ces coups-là reviennent. J'y vais, mais je ne vois jamais rien. Lève-toi, lève-toi, dépêche !»«
On dirait que j'ai peur, » pensait la pauvre enfant. Elle cherchait partout de l'eau bénite, de l'eau pure, dans le bénitier, dans la cruche, rien. Où que ce fût, pas une goutte d'eau. La mère avait fait la lessive. Dans un cuveau, il y avait du lessif. Elle trempe sa main, fait son signe de croix et court alors ouvrir la porte. Mais cette fois, ça n'a pas pu aller, le lessif, parce qu'il avait bouilli. Le diable, en face d'elle, se saisit d'elle, la jette sur son âne et l'emporte au triple galop. Elle a bien essayé de crier, appeler son père. Le père savait trop de quoi il retournait. Il n'avait garde de sortir de son lit puisqu'il avait vendu sa fille et qu'il avait empoché les écus.
Pendant ce temps, le diable et l'âne, tant qu'ils pouvaient avancer chemin, les pieds de l'un, les fers de l'autre, faisaient du feu sur les cailloux et le pays leur fuyait au devant.
À la croisée des quatre routes, voilà qu'il trouve une croix. Dès qu'elle l'aperçoit, cette fille se signe. Le diable, furieux de n'avoir pu l'empêcher, lui abat le bras d'un seul coup. Plus loin dans les montagnes, il trouve une deuxième croix. Le diable n'aurait pas imaginé qu'elle pût encore se signer, puisqu'elle n'avait plus de main droite.
Mais courage! Elle fait son signe de croix de l'autre main.
Alors lui, comme il avait abattu le bras droit, d'un coup, il lui abat le bras gauche. Ils avançaient toujours. Le diable, de si loin qu'il pouvait, veillait à éviter les croix. Soudain, pourtant, à un détour, derrière une touffe d'épines, ils en trouvent un troisième. Une troisième. Elle n'avait plus de main. Plus de bras à la malheureuse. Mais son signe de croix, elle voulait le faire. Et elle le fit de sa tête.
« Je ne te tiendrai donc jamais !»
Le diable, de rage, l'arrache de l'âne, il la prend, il la jette au fossé.
« Et là, fille sans bras, il faudra bien que tu meures de misère !»
Cependant, se traînant comme elle put, elle vint au bout d'en sortir. Elle passa sous un grand buisson qui fleurissait tout rouge et blanc et elle s'abrita sous ses branches en attendant plus que la mort. Dans ce pays, il y avait un château. Dans ce château, il y avait un gros chien noir. Les maîtres de ce chien le voyaient devenir de jour en jour plus maigre.
Elle n'en arrivait pas à comprendre pourquoi il maigrissait jusqu'à n'avoir que la peau sur les os. « Je crois en vérité qu'on ne donne pas une croûte à cette bête !» finit par dire la maîtresse aux servantes. « Ah, madame, nous lui donnons tout autant que toujours. Seulement, il ne mange plus rien dans le logis. Il attend que la grande porte soit ouverte, alors il prend le large en emportant son pain. Où va ce chien? Nous ne le savons pas. »
« Que me racontez-vous ? » ?»«
Oui, madame. Et il y a 3 semaines que dure ce trafic. »
Les maîtres du château avaient pour fils un beau jeune homme. Ce jeune homme se dit « Je saurai où il va. » Il appelle le chien, il lui donne la moitié d'un pain rond, puis il lui ouvre la porte. Et quand il le voit gagner les champs en portant le pain à sa gueule, il saute sur son cheval et tout scellé, tout bridé, et le voilà sur les traces de son chien noir, parti au galop grand à travers la campagne. Ce chien allait, jusqu'à temps qu'il s'arrête à la fin, dessous un gros buisson qui fleurissait, tout rouge et blanc. Le jeune homme qui suivait de loin, aussitôt mit pied à terre, prit le licol et attacha son cheval à un arbre. Mais le diable ne lâche pas si vite ce qu'il a acheté et payé de ses écus. Il continuait de guetter la fille au bras coupé. Et pour être toujours en mesure de la prendre, il tournevirait par là autour. Quand il vit approcher le jeune homme, le dépit le saisit comme une rage. Sitôt le cheval attaché, il court à l'arbre, il coupe le licol. Et voilà le cheval au champ. Le jeune homme, qui ne pouvait pas voir le diable, fut bien surpris. Il rattrape pourtant son cheval, défait sa ceinture et le rattache à l'arbre. Le diable, qui n'avait pas cessé des pieds, revient dans le moment, coupe la ceinture et chasse le cheval. Le jeune homme n'y comprenait goutte. Il cherche dans ses poches, il n'y trouve que son chapelet. Eh bien, avec un chapelet. De ce chapelet, il se sert comme d'un licol. Pour le coup, le diable n'y put rien. Le jeune homme, enfin, d'approcher du buisson. Sous les branchées de fleurs, que voit-il là, dans l'herbe, mangeant comme elle pouvait le demi-pain qu'avait apporté le chien noir ? Une fille, la plus belle qui fut jamais, la plus plaisante, mais qui n'avait pas plus de bras qu'un frêne des chemins quand on a fait la feuille. « Grand pitié de vous, créature ! Qui vous a laissé là, sans bras, sous ce buisson ?» Il avait un tel air de franchise, de vaillance, si fait pour être aimé. Enfin, qu'elle lui dit de bout en bout sa pauvre histoire. « Ah, vous ne resterez là, à la rigueur du temps, ni une heure, ni une minute davantage. Je vais vous emmener au château de mon père. » Il la prend dans ses bras, la met sur son cheval, et le cœur tout en feu, il l'emmène au château. Le chien noir galopait alentour d'eux dans la campagne, sautant, jappant, leur faisant fête. « Va, mon chien noir, tu ne manqueras ni de pain ni de viande aucun jour de ta vie. » Il ne faut pas demander si on l'a bien soigné, pansé, nourri, la fille au bras coupé. Et ce jeune homme, toujours là à veiller sur elle, qui avait eu tant de malheurs. Au bout de la semaine, il a dit à son père et à sa mère « Donnez-la-moi pour femme, car je n'en aurai jamais d'autre. »
« Pauvre enfant, y penses-tu bien ? Une fille qui n'a même plus ses deux bras !»«
Ah, que pourriez-vous dire ? Je veux lui faire mettre 2 autres bras d'argent ?»
Il a fait comme il avait dit, et ils se sont épousés. Il fallait bien. Ils s'aimaient tant tous deux. Mais ils n'étaient pas mariés 3 jours qu'est venue une grande guerre. Le jeune homme a reçu commandement de partir. Pendant qu'il était à la guerre, lui sont nés 2 enfants, un garçon, une fille. Sa femme lui faisait écrire bien souvent et là, vite dans son grand contentement, elle lui a fait annoncer la nouvelle. Vite, vite! et il lui a répondu par une lettre pleine de compliments, d'amitié et de fleurs. Mais le diable en fait tant qu'il peut. Il épiait toujours la belle au bras d'argent. Et est-ce qu'il n'a pas arrêté cette lettre? C'était rien encore. Il l'a remplacée par une autre. « Crois-tu donc me charger de ces deux crapauds-là? Un jour, le jour de mon retour, je vous ôterai à tous la vie, à la mère, aux enfants. » Pensez quel coup! Elle ne savait plus où elle était, la pauvre. Elle va montrer ce papier à ses beaux-parents. Ses jambes ne la portaient plus. Eux, démontés aussi, ne sachant que penser ni que faire. « Il y a nécessité que tu partes, » finit par dire le beau-père. « Va-t'en d'ici, ma pauvre enfant, à la sauvegarde de Dieu et ces deux innocents avec toi. » Elle qui ne pouvait même pas les porter. Elle fit coudre une grande besace. Elle mit l'une devant, l'autre derrière. Passant la porte, et elle mit un enfant devant et l'autre derrière. Passant la porte, elle partit du château. Elle alla au fond du pays, vers les grands bois de la montagne. L'hiver venait. Au-dessus des volées de feuilles mortes, les grolles croassaient pour appeler la neige. Quand elle fut au milieu des bois, elle rencontra Saint-Pierre et aussi Saint-Jean.
D'où venez-vous et où allez-vous, pauvre femme? Vous avez l'air bien lasse et dans l'ennui.
Alors, le cœur lui creva. Elle leur raconta tout. Depuis le jour où le diable l'avait enlevée, en lui abattant les deux bras, jusqu'à ce matin même où elle avait reçu une lettre de son mari, lettre lui faisant savoir qu'au retour de la guerre, il la tuerait, elle et ses deux enfants. De sorte qu'elle venait se cacher au fond des bois pour essayer de les préserver de la mort.
« Mais pauvres femmes, pourrez-vous les nourrir ?»«
Le bon Dieu saura y pourvoir. »«
Avez-vous même pu leur donner le baptême ?»«
Les baptiser ? Moi qui n'ai pas de bras ?»«
Eh bien, nous allons baptiser ces petits. »
Ils étaient là, parmi les arbres et la fougère, dans un lieu où il n'y avait pas d'eau. D'un bâton, on donnait un grand coup sur la place et il en est sorti une belle fontaine. Ils ont tout aussitôt baptisé les enfants, l'un parrain du garçon et l'autre de la fille. Puis ils ont dit « Cette eau est belle, il vous faudrait en boire. » Elle en boit à deux genoux une grande gorgée. Voilà qu'un de ses bras d'argent tombe et que son bras de chair repousse.
Et il faut en boire encore.
Elle en boit une autre gorgée et l'autre bras d'argent s'en va et repousse l'autre bras de chair.
Elle pleurait, elle versait des larmes. « Mes petits, j'ai des bras pour chercher votre vie. »
« Ah, Dieu est bon, au moins je pourrais vous nourrir. »«
Mais il vous faut d'abord une maison, » dirent Saint-Pierre et Saint-Jean.
Ils prirent quatre pierres, les mirent l'une sur l'autre, et ces pierres firent une maison, tout comme la fontaine.
« Demeurez là et ramassez les bras d'argent, vous aurez affaire de ces bras quelques jours. »
Oui, restez là avec les deux petits et n'ayez peur au milieu de ces bois. Mais tenez la porte fermée. Si l'on heurte, ne bougez tant qu'on aura dit « Ouvrez-moi pour l'amour de Dieu !»
Parce qu'il pensait que le diable pourrait bien revenir encore.
Des jours dans cette petite maison, mère et enfant ont vécu comme on vit dans les bois. D'oseilles et de réponses, d'airelles et de noisettes. Ils ne voyaient personne que le gel, la rousserolle et le pivert, parmi la touffe des arbres. Et les petits ont poussé. Les petits sont devenus grands. La guerre a bien duré 7 ans.
Le père, cependant, est revenu de guerre. Sitôt dans son château, il a demandé sa femme, ses enfants et sa femme. Ils sont partis sur les routes du monde. Tu as écrit n'avoir que faire de ses enfants et que tu leur ôterais la vie à eux et à leur mère le jour de ton retour. Ce lui fut comme un choc de couteau dans le cœur.
Mais jamais, au grand jamais, je n'ai écrit chose pareille. Il faut que ce soit le diable. C'est le diable qui a arrêté ma lettre pour en faire passer une sienne à la place.
Oh, vous, ma femme, oh, mes enfants, je jure, ma foi, ma loi, et mon sang, et ma vie, que je ne reparaîtrai en ce château si tous les trois, je ne les y ramène. Et vite! De quel côté sont-ils partis?
Du côté des grands bois, du côté des montagnes.
Lui, sur le champ, il part, il va pour les chercher. Il a marché longtemps, longtemps, longtemps marché. La fatigue le surmontait venu le soir. Il était au milieu des bois et la feuille lui bouchait la vue.
Si pour me reposer je trouvais seulement quelques pauvres maisons,
comme il disait cela, il aperçoit au travers de la ramée une miette de lumière. Il avance de ce côté.
Elle était loin et loin encore.
On me laissera bien entrer. Les gens permettront bien que j'entre. Enfin, il arrive à la fontaine, à la petite maison sous les grands arbres. Le temps s'était levé, il faisait lune blanche. Il approche, trois petits coups frappent à la porte, la mère se lève pour ouvrir. Là, toujours toute bonne, mais le petit se met devant elle.
« Rappelle-toi, Saint-Pierre a dit de tenir cette porte fermée tant qu'on ne dirait pas « Ouvrez-moi pour l'amour de Dieu !»
Le père, cependant, avait tout entendu.
Et du dehors, il dit « Ouvrez-moi pour l'amour de Dieu !»
En frappant trois nouveaux petits coups à la porte. Vite, alors la mère lui ouvre. Il entre. Les petits étaient grands. Comment les aurait-il reconnus? Sans battre des paupières, il regardait celle qui venait de lui ouvrir.
« Mais qui êtes-vous au milieu de ces bois? Y a-t-il longtemps que vous vivez ici ?»«
Pas assez longtemps pour que j'aie oublié la peine et le mari qui m'avait épousée jadis en sa maison. »«
Comment donc êtes-vous dans ce lieu toute seule avec ces deux petits-enfants ?»
Et il la regardait sans pouvoir la lâcher des yeux. Depuis qu'il était entré, il se sentait comme suffoqué de pitié et de joie.
Mais puisque ma femme a les deux bras d'argent, ce n'est pas là ma femme.
Il fallut bien pourtant qu'elle dise l'histoire. Et sur la fin, les bras d'argent, voilà que le petit les montre, pendus à la muraille au-dessus du lit.
Ah, je vois que c'est vous, ma femme et mes enfants, vous trois que j'aime autant que le cœur que je porte.
Tout hors de lui, il les embrassait bien serrés, les regardait, les embrassait encore. On était entre la Saint-Jean et la Saint-Pierre. La nuit est courte en ce temps-là. Elle ne leur dura guère à se raconter leur malheur, attendant le jour à paraître. Mais sitôt le soleil levé, au premier chant des grives, il les emmena avec lui au château.
Et mon conte est fini.
Priez bien le bon Dieu que le diable s'étrangle.
Et mon conte est acabat.
Merci de m'avoir écouté. À dimanche prochain, si vous le voulez bien. Et ne manquez pas de nous envoyer des messages, des retours, des commentaires. Enfin, nous contacter pour ne pas nous laisser seuls dans l'aquarium. Notre adresse, direction... @radiofmplus.org. Et à dimanche prochain!